causerie sur Radio Canut 102.2 ou alors radiocanut.org. Et ce soir, autour de la table dans la causerie, nous avons Jean-Yves à la technique.
Bonsoir.
Stan.
Bonsoir.
Fabien.
Salut.
Notre invité, Philippe Deschemins.
Bonsoir.
Philippe, bonjour, Deschemins.
Et Jonathan qui a fait un lancement très énergique.
T'as vu ça un peu?
C'était pour réveiller le dimanche soir, comme il n'y avait rien avant nous, il fallait réveiller tout le monde.
Ouais, et puis bon, hein, on ne va pas les laisser s'endormir à 22h.
Elle aussi.
Ça serait triste. Et donc, évidemment, hein, pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer des mails à lacauseriecanu@gmail.com. Mais vous pouvez aussi nous retrouver et nous écrire sur notre blog, sur les blogs de Radio Canu, à savoir blogs au pluriel .radiocanu.org/lacauserie, puisque c'est nous. Et, ah oui. Et puis vous pouvez nous trouver sur un petit réseau social bleu et blanc.
Voilà, avec un F.
Avec un F et un B.
À chaque fois on dit bleu et je me suis rendu compte que les deux sont bleus.
Oui, oui, c'est pour ça que j'ai mis un F. Donc voilà.
Et donc ce soir, comme nous accueillons Philippe Deschemins, notamment pour une série de cycles de l'UPOP dont tu vas nous parler oui. Plus en détail, donc nous t'écoutons.
On peut peut-être dire, donc déjà oui. On va commencer par présenter l'UPOP,
oui.
Ce sera déjà bien, parce que c'est l'UPOP du pays viennois, c'est ça?
Exactement.
Il paraît que c'est un peu nouveau.
C'est extrêmement nouveau puisque c'est leur première saison. Donc l'UPOP, ça veut dire Université Populaire Ouverte du Pays Viennois. Donc il y a à peu près toutes les premières lettres sauf le V. Voilà.
Ça fait UPOP, c'était pas terrible.
Voilà. Donc c'est une université populaire qui se déroule dans le Pays Viennois. Donc en Isère. À côté de Lyon, donc à Vienne. J'ai pas toutes les villes là en tête, mais grosso modo, ça se passe dans toutes les communes du Pays viennois. Donc on va retrouver Chasse-sur-Rhône, Serpèze, Vienne, Saint-Romain-en-Galle et d'autres. Je crois qu'il y a 7 lieux. Voilà, j'ai pas tout en tête. Voilà, en gros.
Elle a démarré cette année, donc premier semestre déjà terminé.
Oui.
C'est comme ça que ça marche par semestre, normalement.
Je pense, oui.
Ça fait classe, les universités. Et ça marche ou pas?
Eh bien oui, ça marche pas mal du tout. Alors moi, pour ma part, j'ai démarré là en janvier, donc jeudi dernier, sur un cycle de deux soirs qui sont dédiés au ce que j'ai nommé les penseurs de l'émancipation. C'est un monsieur qui s'appelle Cédric Deglise qui est à l'initiative de cette université populaire. Donc je me suis entretenu avec lui assez récemment pour faire un petit point sur ce premier semestre d'activité et ça démarre bien. Il y a du monde sur des thématiques qui sont assez larges puisque on retrouve des thématiques très on va dire courantes dans les universités populaires comme de l'histoire, des sciences sociales, mais on trouve aussi des choses liées à la médecine chinoise, des choses comme de la naturopathie. Lui voulait aussi s'ouvrir à des choses qui sont pas considérées comme étant, on va dire, des enseignements assez classiques, même si j'aime pas le terme enseignement parce que là c'est plus l'idée d'aller à la rencontre de savoir et pas d'enseigner au sens propre du terme. Donc voilà, c'est une université populaire qui se veut à la fois atypique, mais qui a quand même dans son essence eh bien, des choses que l'on retrouve dans toutes les universités populaires, comme celle de Lyon, l'Unipop, ou bien ailleurs en France.
Et les lieux, ils sont tous centraux ou ils essayent de se décentrer justement? Parce que tu sais que le grand... Enfin, ce qui est généralement... Je vais perdre mes mots, je la reprends. Ce qui est généralement reproché aux universités populaires, c'est d'être généralement dans des lieux déjà de savoir. C'est-à-dire de se remettre dans des universités, par exemple, ou dans des lieux comme le TNP à Villeurbanne, où les gens disent oui, mais c'est déjà un lieu où, un peu élitiste, entre guillemets. Et ils ont un peu ce travers-là ou pas? T'as le droit de dire oui, hein, ou t'as le droit de dire non, ou t'as le droit de dire
non, je dirais non. Alors déjà pour deux raisons. Déjà, il n'y a pas d'université ou de grand théâtre à Vienne. Il y en a un, d'ailleurs, de théâtre. Et il y aura, je crois, ce que je vous disais juste avant qu'on démarre, moi, je vais intervenir en mars à nouveau. Et je crois que ça se déroule au théâtre de Vienne, mais j'en suis pas sûr. Je sais qu'il y a des choses qui se passent au théâtre de Vienne. C'est leur première année, donc de toute manière, ils doivent montrer un petit peu patte blanche. Les gens sont toujours un petit peu frileux.
C'est dur à construire.
Ils savent pas trop ce qui va se passer, qui va venir ou pas. Néanmoins, les lieux sont des lieux, on va dire, qui sont mis à disposition par les pouvoirs publics, si je peux dire ainsi.
Municipalité,
voilà. Donc là par exemple là où j'interviens, donc c'est à Vienne et puis c'est dans un, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, c'est une des anciennes casernes. Ouais. Apparemment qui ont été réaménagées, c'est à côté de la médiathèque mais qui est quand même à quelques centaines de mètres, c'est dans un tout nouvel endroit qu'ils sont en train d'emménager, mais c'est un vieux bâtiment tout de même et donc il y a des communes avec lesquelles ça se passe bien apparemment et puis on leur donne, on va dire, les infrastructures qui sont plutôt sympathiques. Mais chez Cédric, il y a quand même cette envie d'aller là où on les attend pas forcément, d'aller dans des endroits où, comme tu le disais avant, et ben justement, ben pas si élitiste que ça, pour permettre à des gens, on va dire, de leur dire que ben, c'est pour vous, vous pouvez venir, etc. Et l'idée, elle est aussi celle-ci, c'est de décloisonner un petit peu ces histoires de savoir qui doivent être qu'à certains endroits précis et où il faut se déplacer pour aller.
Et on peut peut-être rappeler que l'UPOP, enfin, logiquement, les universités populaires, elles sont accessibles à toutes et tous, gratuitement.
Oui, exactement.
Enfin, je trouve qu'il faut le dire et le redire parce que toutes et tous, on n'apprend pas forcément ces trucs-là. Et que je trouve que c'est toujours bien de savoir que vous pouvez toutes et tous, on peut tous et tous y aller, quoi.
Oui, complètement. Et aussi, une autre chose, qui est importante, selon moi, et qui était importante aussi pour Cédric dans la globalité. Moi, quand je dis pour moi, c'est dans mon approche de la chose, c'est que la plupart du temps, on va être sur des rencontres de 2 heures, et il y a, on va dire, entre 3 quarts d'heure et 1 heure qui sont réservés aux échanges. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas face à quelqu'un qui déblatère un truc qu'il a répété peut-être 15 millions de fois, comme dans un cours traditionnel pour ceux qui sont allés à l'université ou ceux qui sont allés à l'école, tout simplement, avec ce truc où t'es en face d'un prof, et puis bah voilà, il n'y a pas d'échange. Autant te mettre un ordinateur, un autre truc, une vidéo, ou un truc. Et donc, du coup, voilà, ça dure 2 heures. En gros, en moyenne, il me semble, pour tout le monde, et il y a une part d'échange, et pas forcément, en tout cas pour ma part aussi, pas forcément un truc où les gens vont devoir me poser des questions et où j'aurai des réponses, parce que même si le prof est un sujet supposé savoir, même si je suis pas prof, en fait personne n'a toujours les réponses, et l'idée c'est pas qui nous questionne, enfin pour moi qui me questionne, parce que je vais pas parler non plus pour les autres, parce que je sais pas, mais qui me questionne en pensant qu'on a réponse à tout, parce qu'on n'a pas, moi j'ai réponse à des choses, mais loin de tout. Et du coup c'est plutôt essayer de se confronter à nos idées tous ensemble, c'est-à-dire de manière un petit peu circulaire, pas moi devant une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine de personnes qui vont être là en demandant est-ce que tu sais si truc a fait ça ou ça, c'est vraiment pas le but, mais plutôt parler, échanger autour d'une thématique que du coup on propose, en l'occurrence sur mes sessions, c'est les penseurs de l'émancipation.
Très bien. Et alors tu l'as dit 2 fois. Et Cédric, c'est...
De Glise. Cédric De Glise, donc c'est lui qui est à l'initiative de l'UPOP du Pays Viennois.
D'accord, voilà. Je n'avais pas suivi. J'étais pas persuadée qu'on l'ait dit dans l'émission. Je me rappelle qu'on l'avait dit la prépa.
Au tout début.
Ouais, je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit un poil.
Autant pour moi, cher auditeur.
Ouais. Tu voulais continuer?
Ouais, deuxième question. Au niveau du public attiré, du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous espérez?
Sur cette première session, on se retrouve face à des gens plutôt blancs et plutôt âgés. Même s'il y avait quelques petits jeunes, c'était assez, qui devaient avoir tout juste 18 ans d'ailleurs. Voilà. En tout cas, moi, sur cette session-là, c'est le profil que j'ai pu observer. En parlant avec Cédric, il semblerait que c'est une constante quand même. Et lui, souhaite amener d'autres publics, enfin des publics qui ne sont pas censés être là, du plus jeune, par exemple, ou des gens qui viennent de classes populaires ou de cités ou autres. Voilà. Mais on est face à ça.
Combien de personnes, est-ce que c'est ouvert vraiment à tout le monde, enfin en termes de nombre justement, est-ce que tu as une limitation?
Non, je pense que c'est il y a des limites structurelles, il y a des limites structurelles dans la salle où on est. Je pense que nous, sur celle que j'ai fait jeudi et celle que je vais faire là, je pense qu'on peut accueillir peut-être 80-100 personnes. Je sais qu'en moyenne, ce que Cédric m'a dit, ils font 65 personnes. Et il y a des fois où ils ont fait une centaine de personnes, d'autres fois où ils ont fait une petite vingtaine. Après, tout dépend des thématiques et tout dépend aussi des personnes, je pense. Il y a des gens qui ont un peu plus de notoriété, par exemple, là-bas, et puis qui, du coup, ramènent un petit peu plus de monde. Je sais qu'ils ont fait il y avait un cours d'histoire sur l'islam qui a super bien marché. qui a super bien marché. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Donc c'est Gérard Jolivet qui a fait ça. C'est quelqu'un qui est de la région là-bas et qui prépare d'ailleurs en janvier, en février, il y aura un cycle sur l'extrême droite. Ça s'appelle Extrême droite, histoire d'un ressentiment. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde aussi là-bas, ouais.
Je peux, ouais. J'ai eu peur d'un coup, je me suis tourné. Moi, j'avais une question pour te concernant, en fait, ouais. Parce que c'était peut-être une des premières fois que tu faisais une conférence comme ça. Et comment toi tu l'as vécu, c'est-à-dire est-ce que on est un peu bousculé dans ses certitudes, est-ce que ça renforce un peu l'échange, est-ce que ça fait du bien d'avoir des vrais gens devant soi qui nous disent ben j'ai pas compris ou je suis pas d'accord.
C'était la première fois que j'interviens tout seul dans une genre de monologue au début où on présente des choses et ça m'a fait un peu chier quand même parce qu'en fait c'est parce qu'il y a pas des comme c'est pas du spectacle. On peut pas même se nourrir du regard de l'autre en disant ah bah tiens ça a mouché, c'est pas du stand-up. Donc c'est des choses qui sont dites, qui sont censées être factuelles, mais quand même avec mon parti pris. Mais il y a pas d'échange. Donc du coup, j'avoue que j'étais un petit peu sur des moments genre vite que ça passe à moi-même pour qu'ensuite on fasse ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on se mette à parler tous ensemble. J'ai déjà participé à des genres de débats ou autres, donc là il y a de l'échange dès le début, etc. Mais c'est vrai que ce côté même moi je pense que de l'autre côté ça me ferait chier parce que je me dirais autant que prendre un bouquin, autant prendre autre truc et ce serait tout aussi bien. Et quelque part ce qui est bien c'est la deuxième phase en fait, vraiment là où on échange parce que sinon
ça reste très scolaire quoi finalement.
On
reste très professoral.
Ouais.
Et justement, je pense que c'est toute cette différence-là de l'université populaire. C'est justement la possibilité pour les gens en face, ceux qui sont censés recevoir le savoir, et bien de pouvoir le réinterroger. Et c'est ça qui est, je pense, qui est vraiment important et fondamental.
Complètement. Et en plus, dans les échanges, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui étaient plus pointus sur certains thèmes que j'avais abordés. Et du coup, ça, c'est intéressant.
Ça te nourrit aussi, quoi.
Oui. Et puis, on se rend compte que, en fait, les gens, ils savent aussi. Ce qui est, c'est pas si évident parce que si on regarde comment sont structurés les cours, on part du postulat que l'autre est un abruti.
C'est vrai.
Et qu'il ne sait pas.
Qu'il y a une personne au milieu détentrice d'un savoir qui a un pouvoir.
Voilà, complètement.
Et les autres qui lui sont soumis. Alors que là,
un savoir absolu en plus.
Ah bah oui.
On considère que la personne a le savoir total.
Totalement. En psychanalyse, on appelle ça les sujets supposés savoir, c'est-à-dire comme le médecin ou autre. Et du coup, il y a qu'eux qui savent. Et on ne peut pas remettre sa parole en doute, comme par exemple si on est chez le médecin, on va pas lui dire t'es sûr que t'es sûr que j'ai vraiment besoin de ça, etc. Et ben, ce rapport à l'éducation que l'on a, nous, j'allais dire en Occident, mais finalement partout, hein, là où
il y a
du loi, partout.
Là où il y a un système, en fait.
En fait, on a ce truc où, aval, et puis après, tu régurgiteras pendant l'interrogation, quoi. Mmh. Et j'avais même envie de leur dire parfois, du coup, je me disais, il y avait un passage sur Rousseau, et j'ai un excellent documentaire sur Rousseau, qui est édité par les éditions Delga, et qui est vraiment excellent, quoi. Et qui, du coup, est mieux, parce qu'il y a des images, c'est plus sympa, que de me regarder moi déblatérer pendant peut-être 20 minutes sur la partie Rousseau. Mais sans ces échanges à la fin, c'est vrai que c'est chiant quand même. Je pense pour eux comme pour nous.
Oui, parce que ça te fait du travail quand même. c'est une heure de présentation devant public, c'est quand même un sacré boulot. Et puis même, c'est pas... Oui, comme tu dis, peut-être que c'est pas très intéressant de s'écouter parler pendant tout ce temps.
Et
de pas avoir...
C'est pas très ludique. Et puis c'est pas du spectacle. Et moi, je refuse en fait de rentrer dans le spectacle, en fait. Dans le côté théâtral, etc. Parce que c'est de la cosmétique, en fait. C'est important le savoir. Pour moi, c'est vraiment important. Mais il y a des choses, par exemple, qu'on peut faire tout seul, etc. Et puis là, c'est quand même l'occasion. C'est pour ça que je dis aux gens, venez quand même. Hein, parce qu'il y a quand même cette phase de on discute qui est bien.
Puis je suis persuadée que ce genre d'initiative, les universités populaires, c'est très pratique justement pour ça. Parce que même si on est tous capables d'aller chercher le savoir, on n'a pas forcément tous les pistes pour aller chercher ce qui nous intéresse. Et des fois, c'est bien d'avoir des intervenants qui nous permettent d'aller vers ça. C'est-à-dire que c'est pas... Oui, on pourrait se contenter de tout lire dans un livre, mais je pense que c'est plus ludique, plus interactif aussi, et puis moins d'efforts au début pour peut-être des efforts plus intéressants par la suite.
Complètement. Ça permet aussi à toutes les personnes qui interviennent dans ces phases de discussion sur la fin, ça permet aussi de se dire que, en fait, on pense tout le temps tout seul. C'est très rare finalement, hormis avec des amis, qu'on a des échanges et des belles idées. Et donc du coup, on se retrouve dans une forme de certitude et de servitude à la certitude parce que il n'y a pas de contradiction réelle. Mm. Et du coup, là, ça permet de se dire sans pour autant écrire et se mettre à écrire sa pensée, parce que quand on l'écrit, on se rend compte des fois que c'est bancal. Et ben là, ça permet de pouvoir la confronter avec d'autres personnes et de sortir un petit peu de ces certitudes. Et ça c'est aussi intéressant parce que ça permet de mettre de la pratique dans la pensée. Dans le sens de mettre en perspective ce qu'on pense. Est-ce que les gens le comprennent? Est-ce que les gens le comprennent pas? Est-ce que même moi je me comprends finalement quand je veux l'expliquer? Parce que ça aussi c'est un travail qui est assez difficile. On pense des fois dans sa tête, mais quand on veut l'expliquer, on se rend compte que c'est super pas forcément clair, quoi.
On va revenir sur ce que tu fais, mais on va d'abord faire une petite pause musicale pour respirer un peu. Et on revient après.
Et celui qui a la technique a décidé de faire un truc en plus, c'est de donner l'adresse du site internet pour les gens. Et non, mais pour aller chercher l'info et pour pouvoir voir tous les cycles qu'il y a. Vous tapez upop-paysviennois.fr. Vous trouvez tout le programme de toute la, je sais pas, la saison. Je ne sais pas comment on peut dire.
Il y a tout en fait. Il y a tous les intervenants et puis toutes les dates. Parce que les dates ont été calées dès l'année dernière, dès mars ou mai. Je crois qu'ils avaient calé toutes les dates.
Voilà. Et puis maintenant, on part à la musique. We'll be right back.
Et on est de retour dans la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22 à 23, toujours en compagnie de Philippe Deschemin, qui a fait son choix pour les musiques, et on vient de s'écouter, tu peux nous le dire ?
Un groupe, enfin c'est un one-man band, qui s'appelle Aura Shred. Je ne sais pas ce qui était marrant
sur le coup. Et le titre c'était Bad Craft.
Peut-être, je ne me rappelle
Bad
plus.
Bad Draft.
Bad Draft, voilà.
Merci.
Non, ce qui était drôle, c'est qu'on te voyait chercher le titre. Dans tes yeux, on sentait qu'il ne se souvenait pas du titre. Donc, voilà. Et on va continuer pour à travers plutôt ce que tu proposes à la Lupop. Donc tu as un cycle de conférences pour l'instant.
Ouais.
Ouais, ça comme ça. Qui tourne autour des penseurs de l'émancipation, si je me trompe pas.
Alors, c'est exactement ça.
Qu'est-ce que tu mets derrière cette grande expression de penseurs de l'émancipation?
Alors quand Cédric m'a proposé de rejoindre l'aventure, il me connaissait via ce que j'avais écrit en fiction avec Contoyen ou le parc des animaux et d'autres nouvelles, et également ce que j'avais ce que j'écrivais dans le cadre du plébéisme, des écrits de philosophie politique. Et du coup, lui il est venu me solliciter par rapport à ça, et il m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait d'intervenir, et sur quoi est-ce que tu aimerais intervenir, etc. Donc je m'étais posé beaucoup de questions. Lui, au départ, il voulait que je parle du plébéisme en tant que tel. Mais ça me paraissait pas forcément super judicieux pour plein de raisons. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ce que je pourrais faire plutôt, c'est de parler des auteurs qui m'ont amené à ça. Et ces auteurs, je les ai mis sous, on va dire, cette appellation de penseurs de l'émancipation. Donc, j'ai pas appelé ça les philosophes de l'émancipation, parce que dans l'eau, il y en a qui sont philosophes, d'autres pas. Et parce que l'émancipation en tant que telle, pour moi, c'est peut-être l'élément, on va dire, l'un des éléments les plus importants et celui qui serait peut-être la cause des causes dans le cadre, on va dire, de la recherche ou de la vision d'une société décente, juste, égalitaire. Enfin, bref, un truc bien. Un truc qui serait bien. Ben voilà, pour moi, voilà. C'est un terme générique qui regroupe des gens qui ont pensé cela. Voilà.
Et personne ne reprend. Je m'attendais à ce que quelqu'un reprenne, donc pardon, je vais essayer de me réveiller, de suivre.
Non,
non, est-ce qu'on balaye un petit peu certains.
Moi je pensais que tu allais enchaîner sur les.
Mais non, mais je vous laisse bosser.
Et puis qu'on était tranquille, qu'on pouvait attendre.
Il se venge du fait qu'on est riche, qu'il n'est pas tout.
Non, absolument pas. Absolument pas. Non, mais c'est pour, voilà, pour créer un petit peu d'interaction.
Et donc, allons-y. Donc, du coup, tu dis qu'il y a des auteurs.
Voilà.
Il va falloir les citer maintenant.
Voilà. Donc du coup, je me suis dit, mais jusqu'où je vais remonter, etc. et tout ça. Et puis bon, j'ai repris un petit peu mes bouquins de philo et tout. Voilà. Et j'ai décidé de manière assez arbitraire de démarrer à Étienne de la Boétie, qui pour moi est le premier grand penseur, on va dire, d'une époque quasi moderne, qui est celui du début de l'émergence de la bourgeoisie, etc. À l'époque, on va dire au 15e. Donc je démarre avec Étienne de la Boétie tout en... Donc ça, c'est ce que j'ai fait jeudi dernier, par exemple. Je démarre avec Étienne de la Boétie tout en faisant un parallèle avec Machiavel, qui, avec Le Prince, écrit quasiment l'antithèse de ce que sera, on va dire, le discours de la servitude volontaire. Donc voilà, ça démarre avec Étienne de la Boétie. Ensuite, il y a du Rousseau. Ensuite, il y a eu du Marx. Et avec Rousseau aussi, j'ai fait un parallèle également avec Hobbes et sa conception du droit naturel et du contrat social. Ça me permettait aussi d'essayer d'évacuer des a priori sur le fait que Hobbes aurait dit que l'homme est un loup pour l'homme, par exemple, parce que ce n'est pas de lui, ça par exemple, mais on lui attribue souvent à tort. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait jeudi dernier. Et ensuite, on passera jeudi prochain à Gramsci, Simone Veil, Pasolini, et Debord.
C'est drôle parce que Pasolini, tu le casais déjà dans Contoyen, émission 175 de la causerie, vous avez écouté. et c'est marrant parce que j'ai fait 2-3 recherches après qu'on ait fait la prépa,
oui.
Et il y a des gens qui disent, mais pourquoi Pasolini? tu vois, par exemple.
Bah, parce... Et moi, ça me paraît évident, c'est que en fait, c'est comme.
Oui, mais pourquoi ça te paraît évident à toi,
du coup? Bah, parce que en fait, il faut peut-être aussi. Alors, je c'est pas des procès d'intention aux gens non, qui non, sont non. venus te voir, mais Pasolini, il est pas monolithique. C'est pas un monsieur qui n'a fait que des films. En fait, il a écrit. Non, mais je pense que ça.
Je pense que c'est l'erreur que les gens font. Ouais. Ça, ils disent, il va parler de cinéma, quoi.
Ouais. Mais en fait, pas du tout. Pasolini, il a écrit quasiment de la philosophie, beaucoup d'écrits critiques sur l'Italie de son époque. Et moi, j'aime bien Pasolini comme cinéaste, même si c'est pas le truc qui m'éclate le plus. J'aime bien. Je trouve que c'est un personnage qui est intéressant. Mais ce qui m'intéresse chez Pasolini, c'est son travail écrit. Notamment autour de la société de consommation, sa vision du fascisme, voilà. Et c'est quelqu'un qui est intéressant parce que c'est pour moi, et je vais peut-être dire un truc qui va choquer beaucoup de gens, le seul penseur, on va dire, décédé qui était, je sais pas comment je pourrais le tourner. En fait, à part Pasolini, aujourd'hui, en mon sens, bon, je connais pas tout le monde non plus, mais des gens que je connais qui ont écrit, c'est le seul, en fait, qui ait parlé du monde réel. Les autres, en mon sens, personne n'est allé, peut-être Michéa sur certaines choses où il touche vraiment du réel, mais il était déjà en avance sur quasiment tout le monde parce que l'Italie a vécu des choses que nous on n'a pas vécu avant les années 70 quasiment, donc il était vachement en avance. Et je conseille à tout le monde de le lire, Pasolini, les écrits corsaires, c'est excellent.
Pour du coup décrypter le monde d'aujourd'hui.
Pour décrypter le monde d'aujourd'hui, avec ce décalage, parce que l'Italie a perdu la guerre en 45, même un peu avant, ils l'ont perdu en 44, je crois. Et du coup, ils ont subi le marché d'emblée, parce que les Américains en ont fait un endroit, un truc à eux. Donc ils ont subi ce que nous, on a subi dans les années 70, 30 ans avant. Et on le voit à notre télévision, par exemple. Tout ce que l'on a, Sarkozy, c'est Berlusconi quelques temps après. Nos émissions télé, c'est les émissions italiennes 15 ans avant. En fait, il y a vraiment ce décalage. Et du coup, c'est très intéressant d'aller voir ce que quelqu'un de l'époque qui a vécu ça en a, et qui, avec une vision, parce que lui se revendiquait comme marxiste, avec une vision marxiste, pouvait comprendre de son monde à l'époque.
Mais alors du coup, ça va m'amener à une autre question, c'est que la notion d'émancipation, va falloir un peu la définir à un moment donné. Qu'est-ce que toi tu entends par la notion d'émancipation ?
Alors, je commence par justement prendre des définitions de ce que c'est que l'émancipation. Et les définitions sont assez simples en fait. C'est se détacher ou prendre son indépendance par rapport à un pouvoir, quel qu'il soit. Émancipar, ça vient de de mancipar qui veut dire prendre par la main. Et c'était de cette manière-là qu'on achetait un esclave en fait à l'époque antique et donc émancipation ça vient de là. C'est d'un point de vue juridique, on va dire, c'est quand un mineur devient majeur alors qu'il n'est pas majeur mais qu'il le devient de manière administrative. C'est quand on se débarrasse de la tutelle de quelqu'un, d'un pouvoir en fait qui s'exercerait sur donc d'un pouvoir, d'un contrainte, etc. Ce que moi je mets dedans, déjà c'est un terme que tout le monde comprend, donc c'était pour moi un peu intéressant de le mettre. Tout le monde comprend à peu près ce que c'est, parce que il y a des choses comme des thématiques on va dire très connues comme l'émancipation de la femme, etc. Tout le monde comprend tout de suite ce que ça veut dire. C'est aussi un terme qui peut être on va dire un sujet à des interprétations. Donc bonne ou mauvaise. Par exemple, le royaliste ou le monarchiste souhaite aussi s'émanciper du marché. Donc on a tous notre vision de l'émancipation, parce que la plupart sont anticapitalistes. La plupart des gens d'extrême droite ou des monarchistes ou ces gens-là. Donc après, moi ça me permet aussi de jouer sur ça. C'est-à-dire d'expliquer que il y a émancipation et émancipation. Par exemple, je mets aussi en parallèle des concepts qui peuvent être très proches ou contraires. Par exemple, le bien commun. Donc le bien commun chez Mussolini, c'est pas le bien commun de Rousseau.
On est d'accord.
Mais ça peut être interprété presque de la même manière.
Oui, parce que les mots sont les mêmes, mais l'intention n'est pas la même.
Exactement. Donc, ça me permet aussi de parler de lutte de classe et de collaboration de classe. Donc ce sont deux concepts qui se regardent en fait les uns, mais ça passe mal ça par exemple hein, c'est des trucs qui sont assez difficiles à faire à expliquer ou appréhender parce que le concept de collaboration de classe, c'est un concept en fait qui est très difficile de comment dire, c'est un truc presque tabou. Mmh. Voilà, c'est un concept presque tabou. Faut surtout pas en parler parce que quelque part c'est le ciment qui maintient la pyramide. Ouais. Donc c'est un truc qu'il faut surtout pas en parler. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le terme français, la version française de la collaboration de classe est réapparu après les attentats du 13 novembre, je crois, ou de trucs avec l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est le concept français, c'est le concept fasciste français de la collaboration de classe. C'est-à-dire, on est tous ensemble. En plus, ils y mettent parce qu'ils aimaient bien. Je crois que c'est, je sais plus qui c'est qui avait adapté ça à la France. Le terme de collaboration de classe qu'il adaptait à la France en y mettant un petit côté. Pour, je crois que c'était pour draguer un peu les royalistes, très chrétiens. Donc on mettait sacré dedans, mais voilà. Et ça, c'est des notions que j'aborde aussi également pour pouvoir permettre à des gens d'essayer de d'avoir une nouvelle peut-être grille de lecture sur certains concepts que des fois on a l'impression d'avoir complètement ingurgité alors qu'en fait non.
Et du coup, il y a un vrai travail sur ces questions sémantiques, finalement, parce que quand tu parles du sens que peut avoir le bien commun chez Mussolini ou chez Rousseau, pardon, excusez-moi, il y a aussi un gros travail, du coup, de dénoncer les impostures sémantiques, comme tu disais pendant la prépa, voilà. et d'aller vers une interprétation. Enfin, une nouvelle interprétation de certaines choses. Alors du coup, là t'as donné quelques exemples, mais le but, au fond, c'est pas juste de parler et de dire des mots, c'est qu'il y a quelque chose d'important derrière. Quand tu...
Pour ma part.
Oui.
Oui. Ah oui.
Très bien.
Non mais il y a une forme de militantisme. Moi, je suis quelqu'un de très très fainéant et il y a toujours un but quelque part. J'aime pas les coups d'épée dans l'eau. Mais par exemple travailler là-dessus sur ces termes, on va dire, qui sont soit galvaudés, soit qui n'ont pas le sens qu'ils ont de manière réelle, c'est aussi un travail d'émancipation. Parce que si on refait un petit peu de Marx standard dans, par exemple, dans l'idéologie allemande, il explique que l'idéologie, lui, ne voit qu'une idéologie, donc c'est l'idéologie globale, et il explique que en fait l'idéologie, c'est l'idéologie des dominants, et que toute la magie, c'est de faire en sorte que le prolétariat s'accapare cela en croyant que c'est ça son idéologie à lui. Et c'est aussi un travail, comme on sent qu'il faut faire au niveau sémantique, parce que tant qu'on se bat avec des concepts qu'on ne maîtrise pas entièrement ou qui sont manipulés de manière constante, on va dire, par des gens qui s'accommodent du système tel qu'il est, parce que ils y trouvent plein de petits privilèges, et quelque part, ce travail aussi sur le langage, sur la sémantique, c'est un travail d'émancipation. Mais c'est très long, très très compliqué, et moi tout seul, je ne peux pas, par exemple. Mais j'essaie, ou je m'efforce, moi, dans ce que j'écris, quand j'essaie de m'exprimer, d'éviter d'utiliser certains termes qui peuvent être mal interprétés ou qui peuvent être le vocabulaire entre guillemets des gens qui sont plutôt contre les idées que je peux évoquer. Mais c'est très compliqué parce que je pense que le malentendu est consubstantiel au langage. Je pense que le malentendu est né avec le langage et que du coup, il faudra toujours jouer un petit peu avec ça, que les gens joueront toujours un petit peu, mais qu'on ne peut pas faire autrement que au moins qu'ils maîtrisent un petit peu ce malentendu autour du langage.
Eh ben, on va juste rappeler que c'est le 12.
Le 12, voilà. Oui, jeudi prochain.
Avant de refaire une petite pause musicale et de revenir et de donner un exemple justement de ce que tu disais de la sémantique qui est détournée bien souvent à des fins pas terribles au final.
We can't get an ID there. It's been ages we didn't care. We can't get an ID there. It's been what I found is not a weekend. And carry it all myself away. 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 And carry it all myself away.
De retour dans la causerie. Bah, c'est dur ce soir. Dimanche 22 23. Et on vient d'entendre donc
Scampi.
Et c'était quel titre ?
Get an idea.
Voilà. Il est super bon à prendre.
On a un super DJ au sens ancien du terme, disque jockey. Derrière sa vitre. Scampi, c'est un groupe lyonnais. C'est un duo ou un trio, je ne sais plus. Voilà.
Mais c'était très bien en tout cas. On parlait avant justement de la sémantique et, de se réapproprier des concepts pour les maîtriser et ne plus se faire avoir, pour être un peu simple. Et pendant la prépa, tu parlais de quelque chose moi, que je trouvais intéressant peut-être de remettre ici. C'était la notion de ces gens qui utilisent des mots comme la France éternelle, des choses comme ça. Et tu disais, mais il y a un ridicule là-dedans. Voilà, mais pourtant, ça prend. Alors, comment toi, tu déconstruirais ça pour dire... ça ne devrait pas prendre, en fait, en théorie.
C'est quelque chose que j'aborde, justement, dans le cycle. La plupart des penseurs ou des philosophes que je présente, et dont je présente certains des concepts, font partie du courant matérialiste. Donc déjà, je commence par expliquer brièvement ce que c'est que le matérialisme et ce que c'est que l'autre grand courant qui est l'idéalisme. Déjà, je commence par expliquer que le matérialisme, ça n'a rien à voir avec en philosophie, avec ce que eux appelle matérialisme dans la vie de tous les jours et qu'en mon sens il faudrait appeler par ce que c'est-à-dire le consumérisme. Souvent les gens confondent consumérisme et matérialisme. Donc j'explique ce qu'est le matérialisme et ce qu'est l'idéalisme. Donc en gros, je vais caricaturer, mais pour que ce soit compréhensible, le courant matérialisme pense que ce sont les conditions de vie et ce qui est autour de nous qui, on va dire, influent sur l'idée et l'ordre du monde. Et les idéalistes, eux, pensent que c'est le contraire, qu'il y a une forme de monde un peu lointain, des idées, où il y aurait peut-être quelques dieux, etc., qui nous insufflent ce qu'est le monde et ce que nous pensons. Et quelque part, du coup, chez les matérialistes, il y a toujours cette importance de l'histoire et du temps, puisqu'on évolue avec le temps, et sans faire de grande philosophie, on sait tous qu'on n'était pas le même il y a 10 ans, il y a 5 ans qu'on évolue, donc il n'y a pas d'immuabilité, il n'y a pas d'immobilisme dans les choses, et quelque part, quand on voit des gens qui sont censés être des gens cultivés ou autres, qui vous sortent des concepts de type France éternelle, mais c'est les mêmes qui parlent de l'union sacrée et ce genre de choses,
oui,
d'ailleurs. Donc c'est moi je trouve ça juste, en fait, complète, c'est de la science-fiction, en fait. C'est leur dire, bon, de temps en temps certaines personnes leur posent la question, mais votre France éternelle démarre quand avec Lovis, où est-ce qu'elle démarre? Et voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de récupérer certains concepts clés qui permettent de comprendre, on va dire, la politique ou la philosophie, et justement de leur redonner le sens qui convient pour pouvoir décrypter un petit peu ce que les gens disent, surtout et souvent à la télévision ou dans des débats qui sont pas des vrais débats, mais des mises en situation de gens qui ont des idées légèrement opposées pour faire un peu d'audimat et ce genre de choses.
Et toi, Jean-Yves, tu voulais rebondir sur une autre...
Oui, bonsoir. tout à fait. Moi, c'est parce que pendant la prépa, et vu que le temps nous est compté, hein, ouais, quand même, ouais. Tu parlais de la suspension consentie ou volontaire de l'incrédulité.
Oui.
Et je trouvais que le vulgariser un petit peu, enfin en tout cas aller plus loin que ces trois mots-là mis les uns à côté des autres, je trouvais que c'était intéressant aussi, en fait.
Et tu peux même dire de qui c'est.
Oui. Oui, parce que j'ai fait mes recherches un petit peu.
Là, je sais même plus de qui c'est.
Eh ben, c'est apparu en 1817, et c'est un Anglais, c'est Coleridge.
D'accord.
Qui était poète, etc., et qui a apporté ce terme-là, en fait.
D'accord. En fait, c'est très simple. C'est ce qu'on fait tout le temps quand on lit une fiction, quand on regarde un film, c'est-à-dire qu'on met son incrédulité de côté. Par exemple, quand on regarde un film avec des extraterrestres ou King Kong, on se dit pas toutes les secondes, mais il existe pas. Enfin, il y a toujours quelqu'un quand même, genre une grand-mère ou autre, qui dit mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Ah, donc cette personne-là, c'est une caricature, mais donc il y a toujours quelqu'un qui met un peu moins son incrédulité de côté, mais grosso modo on le fait tous. Et quelque part, si on avait notre cerveau entièrement, on va dire en marche et en fonction critique, pas au sens critique négatif, au sens critique scientifique du terme, eh ben, en fait, on ne pourrait pas prendre ces gens au sérieux. Quelqu'un qui nous parle de France éternelle ou qui nous parle de trucs, enfin, de choses absolument qui n'ont pas de sens, et on trouverait ça mais absolument absolument aberrant. Et quelque part, quand on regarde et quand on est spectateur du monde politique, on fait tous cela en fait, et bien malheureusement. Donc c'est un concept qui est intéressant parce qu'en plus on le mettait en perspective avec Debord, donc le monde, la société du spectacle, et Debord explique que en fait dans la société marchande, en fait tout s'éloigne, c'est-à-dire que le réel devient encore, enfin tout s'éloigne au fur et à mesure, tout n'est que représentation, tout n'est que perspective, et même sa vie en soi, elle n'est qu'une projection dans une projection, enfin c'est une immense mise en abîme. Et le se pose la question du sérieux politique là-dedans, alors que on sait tous quand on pose, enfin, moi j'ai discuté des fois avec des gens et je me dis mais comment tu peux y croire, enfin c'est ça me fait à peu près la même chose que quand j'étais tout jeune adolescent et que je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse être un scientifique ou médecin et croyant. Ça me paraissait complètement complètement dingue. Et en fait
ça te paraît toujours dingue, non?
Non, ça me paraît toujours dingue, c'est-à-dire que il y a une forme de double pensée orwellienne, ce qu'Orwell expliquait bien, qu'on voit dans 1984, une forme de double pensée ou de dissonance cognitive, mais qui est pas pathologique, voilà. C'est-à-dire que c'est des pathologies, on va dire, qui vous empêchent pas de vivre. Il y a des normes dans la société, et faire de la dissonance cognitive un petit peu tout le temps, par exemple savoir que le mec en face de vous raconte des conneries, mais vous allez le défendre, le mec en question, je pense à un homme politique, hein, par exemple, quel qu'il soit, vous allez le défendre alors que vous savez pertinemment qu'en fait c'est des conneries et que ça n'a pas de sens, et ben c'est pour moi une forme de pathologie, mais une gentille pathologie qui vous empêche pas d'aller travailler. C'est surtout ça, en fait. Les pathologies, en fait, elles sont pénibles pour la société quand tu peux pas aller travailler. Ou qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Enfin, tout ce qui va pas dans le cadre de ton rôle social, ça devient pathologique. Mais sinon, il s'en accommode très 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 bien.
Puis quelque part, je pense que quand on parle de suspension volontaire d'incrédulité, il y a une sorte de mise en sécurité. Et quelque part, accepter finalement les histoires qu'on nous raconte, c'est une manière de pas se mettre en danger soi, de pas prendre le risque d'avoir une idée, de pas prendre le risque de s'opposer, de critiquer, et finalement c'est accepter que les dinosaures étaient des dragons et que tout va bien. Enfin, c'est plus facile. Je le défends pas, mais je me l'explique comme ça.
Il y a de ça. Et je pense aussi que ceux qui sont les plus militants font un petit peu ce qu'on a dit un petit peu en off, c'est-à-dire qu'il regarde les hommes politiques comme il regarde Brad Pitt et puis je sais pas qui d'autre, et quelque part, en devenant leur ami, eh ben ils espèrent, ouais. Et on se rapproche d'une, on va dire d'un monde un petit peu fantasmé, fantasmagorique, un petit peu. En plus, je crois qu'ils en parlent souvent. Des fois, ils font des trucs en off, comme quoi être homme politique c'est bien, parce qu'on peut se taper plein de meufs, etc. Non, mais c'est vrai. Vous avez plein de pouvoir, vous avez la séduction, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a de ça. Et aussi il y a ce côté de se donner un peu d'importance. Moi, quand j'étais adolescent, ça nous faisait chier la politique quand on les voyait, parce qu'en plus quand t'es gamin. Quand t'es vraiment tout petit, que t'as pas été entièrement conditionné, tu le sais que c'est des conneries. Tu les vois gros comme les autres, tu dis mais pourquoi ils parlent pas comme les autres? Pourquoi ils mentent? Pourquoi ils... Oui, quand t'es petit, tu te rends compte tout de suite.
Ouais, c'est même instinctif parce que tu décryptes du coup plus facilement le spectacle parce que tu n'y as pas participé et tu n'es pas dans le
temps. Et t'es pas entièrement, pourri quoi.
Ouais.
Donc du coup, tu vois le truc un peu de loin, tu te dis tiens, il est bizarre lui, c'est pas net.
Je pense que tu comprends que c'est pas naturel.
Ouais.
En fait, c'est ça, c'est que avec ton œil d'enfant, tu vois que c'est du spectacle.
Tu sais, un enfant, c'est pas stupide non plus. Je pense qu'ils comprennent très bien les enjeux de ce qui est dit, hein, et puis qu'ils voient très bien que ça correspond pas à la réalité. Même si c'est pas une réalité politique comme l'adulte formé, etc., que nous sommes, évidemment, on peut la concevoir. Tu vois, c'est...
Je sais pas si l'enfant il a la capacité d'appréhender la conception politique. Par contre, je suis d'accord avec vous sur l'attitude en fait.
Oui, voilà.
Je pense qu'il y a du.
Non, mais je pense qu'il comprend même le fond du texte sans tous les. Et quand on te dit voilà, on va faire baisser le chômage et de toute manière, moi j'ai la solution. Et même si t'as alors peut-être pas 5 ans, mais 10 ans, tu vois bien que.
À 5 ans, si tu y penses déjà, c'est grave.
Oui.
Moi j'avais une. Je voulais repartir sur la notion de spectacle parce que il y a quelque chose moi qui m'interpelle dans ce que tu disais, c'est que du coup toi tu vas aller intervenir en face de personnes qui aujourd'hui sont dans une société du spectacle gérée presque au carré parce qu'on met notre vie en scène tous les jours, tous les gens qui ont des réseaux sociaux, tous les gens qui voilà font de la mise en scène de leur propre vie en permanence. C'est d'ailleurs l'effet des filtres photos, c'est le fameux truc qu'on dit, c'est toutes les photos sont bonnes aujourd'hui parce que tu peux toujours filtrer, comme ça c'est toujours bien. Et toi, en fait, tu leur expliques quoi? Tu leur dis que l'émancipation, c'est ce que leur vend la société aujourd'hui? Non, je sais que c'est pas vrai. Mais d'être très individualiste et tout seul, ou est-ce que c'est de faire du lien et finalement de s'émanciper avec les autres et pas contre les autres?
Bah, moi, je fais, c'est s'émanciper avec les autres, forcément.
Bah, oui.
En tout cas, moi, tous les auteurs que je présente, ce sont des auteurs qui sont dans l'ensemble. D'ailleurs, tous, je pense que si tu réfléchis un petit peu et que tu, on va dire vraiment de manière rationnelle, tu te rends compte que il n'y a pas d'autre alternative. La version, on va dire, de Hobbes qui dit que son contrat social, c'est la guerre de tous contre tous, c'est ce qu'il dit. Et en plus, lui, il fait une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'il part du principe qu'il n'y a pas d'état naturel. Donc, il fantasme, il le dit, en plus, il invente un état qui n'existe pas pour dire qu'il y aura la guerre de tous contre tous. Donc, déjà, le concept en lui est un petit peu étrange. Mais, je ne fais pas partie de ces gens qui s'imaginent parce que depuis toujours, on a cette crainte-là et on nous fait croire que s'il n'y a pas l'État, s'il n'y a pas de l'ordre, ce que leur ordre, c'est la guerre de tous contre tous, parce que ça, on nous l'inculque depuis qu'on est tout petit. Toutes les séries télévisées où l'État disparaît un peu, c'est la guerre de tous contre tous, ils s'entretuent pour choper un bout de pain, alors qu'en fait, on voit très très bien que non, c'est la coopération, c'est l'entraide qui est un facteur d'évolution.
C'est en premier lieu.
Puis c'est le véritable facteur de l'évolution, c'est l'entraide et non pas la compétition. Parce que si c'était la compétition, on serait tous surdoués, puisque tout est basé sur la compétition. Donc pourtant, je croise beaucoup d'amour ici, au sens, je le dis gentiment, mais je croise pas beaucoup de surdoués. Donc si notre système basé sur la compétition était bon, par contre, l'intelligence, on la rencontre plutôt dans l'entraide. Parce que on va découvrir des choses à travers l'autre, etc. Par exemple, un truc simple qui moi me parle beaucoup, c'est la musique. Et ben, on est meilleur avec les autres que tout seul. Parce que les autres, il va avoir des idées que toi t'as pas et que tu pourras jamais même imaginer. Mais je sais même plus ce que c'était que la question.
Non, mais tu y as répondu.
Oui, c'est ça qui est bien.
Ouais. C'est tu as répondu à l'idée que il faut revenir en fait à une émancipation avec les autres.
Ah, mais elle sera pas forcément collective parce que de toute manière, déjà on est en effectif moindre. Donc de toute manière, il y a une nécessité intrinsèque dans la lutte d'être à plusieurs pour pouvoir construire ensemble des choses. Et puis, même déjà tout seul, c'est moins marrant. Et de prime abord, faut pas se leurrer, on est un animal social. Et on a ce truc-là en nous, c'est comme ça. Quand on regarde, ce qu'était l'homme avant la marchandise, l'époque néolithique, donc juste un poil avant, il vivait en communauté. Hein. Il faut aller du côté de la Bretagne, il y a encore des, des ruines. Les baraques, c'était des trucs de 60 mètres de long. Hein. Et ils habitaient tous dans ces grandes, dans ces grands endroits. Il y a une forte communauté. On retrouve des ossements de vieux paralysés qu'on a enterrés. Donc c'était pas tant des sauvages que ça. L'apparition de la marchandise a changé la donne. Donc avec la révolution néolithique. Mais je pense que on est mieux ensemble que tout seul.
Oui, après c'est toute la place qu'on laisse aux individus en fait. C'est-à-dire que le groupe ne doit pas être la négation des individus qu'il constitue
voilà.
En fait.
Voilà.
Et je pense qu'une émancipation collective et individuelle simultanée, je pense qu'elle est largement possible en fait quoi.
Ah mais moi je pense qu'elle est possible.
Elle est souhaitable.
Parce que après il faut pas se leurrer. Moi on le voit tout le temps en fait. En fait c'est l'expérience du commun. L'expérience de la propriété non privée, on la fait tous les jours. Il y a plein de trucs qui vous appartiennent pas et que vous utilisez, même chez vous, dans votre maison, dans votre famille, par exemple, c'est de l'ordre de la propriété collective. Vous vous posez pas la question de savoir l'autre il va me voler mon truc ou pas ou quoi que ce soit. Je me suis perdu. Je sais plus ce que je voulais dire. En plus, je sais plus ce que je voulais dire.
C'était bien parti.
L'émancipation collective et individuelle, comment ça s'agence et est-ce que l'émancipation individuelle...
Oui, voilà. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que là où ça foire à chaque fois, c'est qu'il y a les gens qui s'imaginent, on va dire, s'émanciper collectivement, se faire un truc à eux, et en fait, ils remettent à l'intérieur les trucs de ce qu'ils veulent fuir. Mmh. Et en fait, du coup, ça foire, mais parce que tu refais ce que tu veux fuir. Donc, quelque part, c'est toujours des mini-donjons qui se recréent, etc., avec la même structure que l'extérieur. Donc, ça peut que foirer. Inévitablement. Et du coup, par exemple, c'est pour ça que le Parti communiste, par exemple, devient un parti de électoral, qui est un non-sens total, mais un non-sens absolu. Si tu lis le truc et que tu le comprends de masse, tu fais, mais c'est de la dissonance cognitive. C'est la petite pathologie, on va dire.
Accepté.
Oui, voilà. Ouais, ouais.
On fait une petite pause, on revient après pour faire juste vite fait finir l'émission.
Ok, allez. Allons-y. We'll be right back.
Et on reprend. La causerie 22-23 sur Radio Canu. Et on vient d'entendre
Orange Red.
Voilà, bien évidemment, avec le titre Flash. Flash.
Ouais, ça, je m'en rappelle.
Donc, juste avant, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais pour. Tu disais que ça foirait à tous les coups et tu t'es dit non, oui. je peux pas rester sur ça foire à tous les coups. Oui. Faut que je dise autre chose.
Non, voilà, ce que je disais, c'est que c'est évident que si on fuit un système et qu'on en crée un autre et qu'à l'intérieur, on se met à y réincorporer, même peut-être inconsciemment, des choses de l'extérieur qu'on n'aimait pas, ça foirera. Ça, c'est sûr et certain à 100%. Mais ça veut pas forcément dire, quand je dis ça, que je sais ce qu'il faut faire. En vrai dire, j'en sais pas grand chose. Enfin, je sais ce qu'il faut pas trop faire, mais ce qu'il faut faire,
et t'as construit, en fait.
Voilà, ouais. Et parce que savoir ce qu'il faut pas faire, c'est pas savoir ce qu'il faut faire. Mmh. Et les gens ont l'impression souvent de dire, ouais, mais tu sais ce qu'il faut pas faire, donc tu sais ce qu'il faut faire. Non. Ça.
Et c'est à construire collectivement, du coup.
Bah oui.
Tu vois, c'est ça la boucle est bouclée.
Ça n'en fera que plus riche.
Bah ouais.
Avec les différents points de vue, expériences, etc. des gens. Enfin bon, on pourrait continuer, je crois, comme ça.
Mais on peut pas, en fait.
Heures, non, on ne peut pas. Donc on va terminer. Fab, je crois que tu as.
Non, bah d'abord peut-être rappeler les dates pour Philippe, parce que c'est que ce soit regroupé. Donc du coup, tu réinterviens quand?
Jeudi prochain, donc le 12, à Vienne.
D'accord.
À 19h.
Et c'est où, à Vienne?
Je sais plus. je sais plus, mais faut aller sur le site. C'est tout bien expliqué. Et donc, du coup, pour rappeler, donc, jeudi, on abordera Gramsci, Simone Veil, Debord, Pasolini. Voilà, avec une bonne heure d'échange.
Et bah, c'est cool. Oui.
Et du coup, pour rappeler le site de l'UPOP, pour aller trouver toutes ces informations,
c'est upop-du6paysviennois.fr. Voilà.
Et vous avez toutes les infos dessus.
Oui.
Et je crois que tu vas peut-être bientôt dire où c'est, non? Non, pas du tout, ça marche pas.
Je n'en suis pas sûr, je voudrais pas donner les infos aux gens, donc allez sur le site, vous trouverez bien les informations.
Et après ça, en mars, apparemment, on se retrouve?
Oui, en mars, j'interviendrai sur.
Je dirais le 2 mars.
Ouais, ça doit être ça. Ouais. J'interviens sur le vote. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas pour. Le vote. Donc je viendrai. Je sais pas trop comment va se passer la soirée. Apparemment il y aura d'autres personnes. Mais voilà, l'idée ce sera de présenter ma position sur la chose. Et pour ceux qui seront là jeudi, je dirais que une personne comme Simone Veil, donc la philosophe française, qui a travaillé la question, bah voilà, a été d'une grande influence dans ma façon de voir la chose.
Et ce sera à Vienne.
Ce sera à Vienne.
Eh ben moi je vais faire une petite brève, parce que quand même, et te remercier d'être venu quand même. Et donc juste dire aux gens que le samedi 14 janvier à 15h à la librairie La Griffe, je vais y arriver, hein, c'est donc La Grève des Ovalistes, c'est un livre qui a été écrit par Claire Ozia et Annick Well, voilà, donc qui sera présenté. Pour ceux qui savent pas ce qu'est La Grève des Ovalistes, hein, c'était la première grande grève de femmes ouvrières en France. Ça s'est passé à Lyon, c'était en juin-juillet 1869, ça nous rajeunit pas tout ça, mais c'est surtout intéressant parce que les auteurs ont un peu creusé la question, et surtout elles ont creusé les liens avec l'AIT de l'époque, qui est l'Association Internationale des Travailleurs, et l'engueulade qu'il y a eu au sein de l'AIT entre marxistes qui n'aimaient pas trop l'idée de soutenir des femmes en grève et anarchistes qui, eux, voulaient les soutenir. Voilà, donc c'est assez intéressant et je vous invite à y aller. Et c'est donc samedi 14 janvier, 5 rue Sébastien Griffe à La Griffe. Voilà.
Et juste avant de se quitter, parce qu'on est en retard et comme ça, on peut le dire, avec Stan, on a une association qui s'appelle La Petite Première, enfin on a, c'est à tout le monde, hein. On est dans une association qui s'appelle La Petite Première et qui est une association qui a pour but de faire monter sur scène pour la première fois ou de faire, enfin de montrer une performance pour la première fois en public. Et donc voilà, il y a un Facebook pour le moment, un petit Gmail, La Petite Première, allez nous voir, venez, c'est bien si vous avez envie de faire des trucs artistiques.
Je crois qu'on en reparlera.
Oui.
On en reparlera longuement.
Merci Philippe d'être venu.
Bah merci à vous, hein. Merci à vous pour l'invitation.
C'était un plaisir.
Plaisir est partagé.
Tu reviens quand tu veux. Enfin, quand on dit, tu peux venir.
Ça marche.
Et on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, bon courage pour la semaine à venir. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la causerie. Mm-hmm. Tous les dimanches, comme tous les dimanches, pardon, de 22 à 23h à l'antenne de Radio Canu.
Et on se quitte avec quoi?
Ah ouais, bien vu. On se quitte avec Scampi et le titre Waiting for the Sound.
C'était bien.
Ouais, hein, t'as vu?
Allez, à la prochaine.
À la prochaine, enfin, ciao.
Bonne soirée.
Salut.
Singing French young lady, shut it all up on break.